daddy, oh, 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 my mama. Oh, yeah, take all my money, put them for your waist, yo. For your waist, yo, oh, oh, why? I'm a calling, calling, see you. All I'm in is in this, yeah, oh, yeah. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my yeah, my yeah. Calling, calling, see you. Girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my my yo. Baby girl, follow me, my my yo. Follow me, my new. Baby girl, follow me, my yeah, my yeah. Calling, calling, you. My like, calling, calling, see I'm on ya. Baby girl, follow me, my new. Baby girl, follow me, my yeah, my yeah.
Radio Galère.
L'émission que vous allez entendre est une rediffusion.
Est une rediffusion.
Est une rediffusion. He said.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
chers auditeurs, c'est Françoise et Odile qui vont vous présenter le livre « La race des orphelins » de Oscar Lalo, paru chez Belfond en 2020 dans la collection Pointillé. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder pourquoi il y a une collection Pointillé, on n'en sait rien, à savoir la prochaine fois. L'auteur, et c'est quelqu'un qui s'est dit dans la quatrième de couverture, fait des cours de droit, des plaidoiries, donc il doit être avocat, et aussi du cinéma, et des scénarios, plutôt des scénarios pour le cinéma. Et c'est son second livre après Contes des fées, et ce second roman s'inspire aussi d'un épisode inconnu de la Deuxième Guerre mondiale et assez terrible. On s'excuse presque de vous lire ça parce que c'est vraiment très dur, mais c'est, C'est comme il le voulait, c'est utile de le savoir. La présentation des livres est très bizarre, il y a beaucoup de blanc, il y a peu de pages entières, et c'est des petits paragraphes au début de la page. La supposée écrivain dit « Ma vie est tellement lourde et le noir est tellement profond que j'ai eu besoin d'aérer le livre pour indiquer les flashs que j'essayais d'avoir pour savoir ce que ma vie. » Elle dit qu'elle n'a pas connu sa petite enfance et elle voudrait la connaître. C'est pour ça que qu'elle a choisi, on dirait que c'est elle, cette présentation.
Et dis-moi, Odile, c'est un roman et l'auteur, c'est un homme.
Ouais.
Donc, il raconte l'histoire d'une femme,
ouais.
C'est ça ?
Ouais. Oui, c'est à souligner. Hein. Et on exergue un poème de Barbara et aussi la page suivante. Alors, page 8, je vous le lis. J'aurais peut-être bien dû laisser lire par Françoise.
C'est tout au début.
Oui, moi je marque page. Voilà. Alors, la seconde lecture, c'est André Schwarzbart. Et là, c'est Barbara. Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, contre quelqu'un ou quelque chose, je suis pour le soleil marchant. Je suis pour le soleil couchant, je suis pour les forêts profondes, car un enfant qui pleure est un enfant qui pleure au bout de vos fusils, que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocents. Et maintenant une citation d'André Schwarzbart. Madame, il n'y a pas de place ici pour la vérité. Et puis un passage de Moby Dick. Le second jour, une voile parut, s'approcha et me recueillit enfin. C'était la Rachel à la course errante, ayant rebroussé chemin pour continuer de chercher ses enfants perdus. Elle ne trouve qu'un autre orphelin. Herman Melville, Moby Dick. Alors, vous voyez, le thème, celui qui est développé par Barbara, c'est un enfant qui pleure et toujours un enfant qui pleure, quelle que soit sa nationalité, et ça va être particulièrement vrai pour cette femme qui parle et qui est vécue comme une Allemande, fille de nazis. Et Schwarzbart, c'est la dureté de ceux pour qui il n'y a pas de place. Et Madame, il n'y a pas de place ici pour vous. Et l'autre, Moby Dick, la route errante de celle qui cherche ses enfants. Et elle aussi est une enfant perdue, comme c'est dit, les enfants orphelins. On va voir un peu ce statut de l'écrivain maintenant, page 13.
Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Mon journal a de particulier que ça n'est pas moi qui l'écris. J'ai engagé un écrivain, un scribe, un traducteur en quelque sorte. Il traduit ma vie en mots. Je parle, il écrit. J'espère qu'il est fidèle. Je me force à l'imaginer car ma vie m'a appris que les hommes ne sont pas fidèles. Alors je vérifie le soir quand il me lit ma vie. Si je ne comprends pas, on change. L'idée de ce journal est de comprendre. Je l'ai engagé parce qu'on m'a dit qu'il savait trouver les phrases pour expliquer ceux dont l'enfance s'est coincée très tôt, trop tôt. Pour l'instant, il pose les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il n'en pose pas. Moi, je n'ai rien à déclarer, je n'ai pas encore de bouche. J'ai juste besoin d'une main qui écoute, une main qui saura écrire ce qu'elle a entendu, même quand je ne dis rien. Une main qui sache écrire vite aussi, pour ne pas avoir à me faire répéter si les mots sortent. Une main courante, pour témoigner.
Voilà, on voit un peu le statut de l'auteur. C'est elle qui parle, comme tu pouvais remarquer, et c'est un homme qui écrit, le scribe. Il réapparaît, mais de façon très très discrète dans le cours du roman, et on voit à quel point c'est important pour elle de pouvoir avoir quelqu'un auprès d'elle qui écrit, parce qu'elle sait à peine lire et écrire. Et on va avoir une deuxième comparaison, et on voit aussi un des thèmes dominants dans le livre qui la suit pendant toute sa recherche, car avec le scribe, elle va rechercher ce qu'elle ne trouve pas de sa petite enfance qu'elle a perdue, et surtout elle était à la recherche de sa mère. Page 72.
22
24.
On a marqué 22, 23 et 24. Donc je vais les lire. J'appelle mon scribe suisse, mon SS. J'ai besoin de le redire pour ne pas m'attacher. Je ne veux pas m'attacher. Je pourrais. Il me respecte. Il me sourit parfois, comme de la lumière dans ma cave. Je n'ai pas l'habitude. 23. Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Il y a eu le journal d'Anne Frank et maintenant il y a le journal d'Hildegard Müller. On me l'a lu, le sien. Mais nous parlons de la même chose. Nous sommes toutes les deux des enfants victimes du Troisième Reich. Anne Frank écrivait en hollandais. Mon scribe écrit en français. Il y a quelque chose d'insoutenable à écrire en allemand. Je dois m'accoucher ailleurs. Le suisse roman, c'est bien. Du français plus neutre. Mon scribe est là pour me traduire, pas pour m'écrire. Je ne veux pas être son personnage, surtout pas un personnage de fiction. Un personnage de fiction est là pour faire rêver ou pour faire peur. J'ai eu trop peur dans ma langue paternelle. Je ne veux plus rêver en allemand. Je veux que mon scribe me traduise en vous. Qu'à un moment donné, vous vous disiez, j'aurais pu être elle.
Voilà l'ambition de l'écrivain quand il se prend la parole, ou plutôt la plume, pour une femme qui est donc une Allemande. Pour le moment, c'est ce qu'on sait d'elle. On va avoir d'autres renseignements, pages 29 et 30.
On a aussi marqué 27.
Oui.
Et 28. Donc je commence 27. Ma petite enfance est un nuage de cendres qui me cache le soleil. Le mur du silence aussi. Il continue de pousser autour de moi. Il justifie ma part d'ombre, me plonge dans l'obscurité de ma naissance, m'empêche de voir le jour où j'ai vu le jour, me fiche dans le béton de mon éternelle culpabilité. Un béton armé par le Reich, son armature m'étouffe. J'ai vu tomber le mur de Berlin, mais mon mur du silence, il est toujours debout. Page 29. Sur le mur du silence, l'écriture est ma nécessité. Mais je sais à peine écrire, d'où mon scribe. Le premier jour, racontez-moi votre vie. Je lui réponds, je peux vous raconter ma non-vie. Alors, on ne suivra aucun plan. Pour une Allemande, un plan, c'est rassurant. Comment on va s'y prendre ? Il me répond, c'est un état. Il cite Louis Jouvet. Une phrase, c'est avant tout un état à atteindre. Sans cela, il est impossible d'écrire l'enfance volée, violée et dans votre cas étouffée. C'est cela, me répète-t-il, votre enfance a été étouffée. Votre enfance est une flamme étouffée mais jamais éteinte. C'est pour ça qu'elle vous brûle encore.
C'est un psychanalyste qui parle, celui-là. Et on voit apparaître un peu, hein, déjà, les nazis, qui vont évidemment faire tout le fond de ce livre. Et la personne de Himmler, dont c'est cette idée de faire des maisons de vie mot à mot, hein, Lebensborn, et où on ferait de la race pure en ayant trié, soit en Allemagne, soit dans les pays conquis,
Les géniteurs.
Les géniteurs qui sont triés et choisis.
Les maisons de naissance. Ouais. Alors, mon scribe s'est installé chez moi. Il a deux valises de livres. Il croit à la lecture pour ranimer ma mémoire. J'ai de quoi lire jusqu'à la fin de ma vie. Ça me rend heureuse. Même si le sujet de ces livres est plutôt sombre. Il dit que les livres sombres sont souvent lumineux. Il dit que la bibliothèque et la luminothérapie, c'est la même chose. Une lampe frontale pour fouiller ma vie, sa vie. Mais à la vitesse à laquelle je lis, il me faudra plusieurs vies. Ça tombe bien. J'ai envie d'en vivre plein d'autres. Ma vie est un nœud qu'on ne voit pas. Je suis une détenue laissée en liberté. Une prévenue qu'on ne prévient de rien. Une accusée sans instruction. Dans tous les sens du mot instruction. On me ressort toujours le même chef d'inculpation, fille de boche. Mais quand je hurle « Prouvez-le !» on me répond « La preuve, c'est vous. Je suis un élément à charge, né coupable. Coupable d'avoir été conçu et abandonné par un fantôme. Son drap serait noir. Toutes les pièces de mon dossier se conjuguent au conditionnel. Ma vie, c'est l'histoire du type qui aurait vu le type, qui aurait vu le type, qui aurait vu le type. Seule certitude, personne n'a vu le type au commencement de cette chaîne infernale. Le type que personne n'a vu était mon père. Au commencement était l'absence. Ma vie, c'est l'absence de début.
Voilà ce qu'elle va chercher dans cette sorte de psychanalyse, ce qui n'est pas vraiment une psychanalyse, comme on le verra. Et elle cherche à retrouver sa mère. Et elle se demande si sa mère n'a pas été violée. Elle va passer en revue plusieurs hypothèses concernant sa naissance.
Je suis page 46.
Oui.
Ou alors, ma mère a été violée. Le viol est une arme de guerre comme une autre. Il laisse moins de traces. Il tue sans la tuer celle qui en est victime. Je suis peut-être une de ces traces. Sinon, on ne m'aurait pas brûlée administrativement. On m'aurait permis de retrouver ma mère. J'en suis convaincue. On a délibérément fait en sorte que je ne puisse jamais retrouver ma mère. On m'a réduite au silence pour m'empêcher d'entendre sa voix. Ce journal est ma tentative de naître par voie orale.
Elle va abandonner cette lamentation-là pour trouver une autre piste, c'est cette fameuse Lebenborn, cette maison, qui est une sorte d'hospice pour enfants. On peut dire la fabrique, la maison de vie mot à mot, mais la fabrique d'enfants. Pour être plus près du texte allemand. Et va apparaître maintenant Anne Frank encore, et d'une façon plus précise, parce qu'en 1934, la famille Frank vient à Amsterdam pour se croyant plus en sécurité, et elle est à Lebenborn. C'est le moment où les enfants sont faits là-dedans et sont fabriques d'enfants. Ce serait peut-être la meilleure traduction. Et sont gardés là pour devenir de magnifiques ariens. Et c'est la séance.
J'en suis page 63, par exemple.
Ouais.
Ou 64.
Parce que je ne trouve plus mon fil depuis qu'elle a changé de direction, c'était plus difficile.
Je ne suis pas la seule à avoir été fabriquée dans un Lebensborn. Nous sommes plusieurs dizaines de milliers dans ce cas. On ne saura jamais combien. Pour se compter entre orphelins, on se retrouve. Les orphelins sont les seuls sur lesquels je peux vraiment compter. Ceux qui n'ont rien sont souvent généreux. Dans ces réunions, je viens chercher l'écoute que les gens normaux me refusent. La compréhension surtout, la tendresse parfois. Helmut me fait la cour. Mais comme il y a des chances qu'on vienne de la même maternité SS, on pourrait bien être frère et sœur. Je ne vais pas prendre le risque de faire des enfants avec lui. On est assez tarés comme ça. Alors, j'ai choisi Olaf.
On voit Olaf qui entre dans sa vie, donc cette dame, cette femme qui a 76 ans quand elle écrit, est censée avoir 76 ans quand elle écrit, eh bien, elle a eu une vie normale, elle s'est mariée, elle a des enfants. ça n'empêche pas de faire des remarques sur le fait que quand on est un enfant de Lebensborn, on se heurte à des difficultés quand on fréquente un quelqu'un qui n'est pas de la race des orphelins.
Quand tu flirtes avec un non-orphelin, à l'instant où tu essayes d'expliquer tes parents, le flirt s'enfuit poliment. Nous personnifions les SS alors que nous en sommes les victimes. Mais ça, tu n'as jamais le temps de l'expliquer. On ne veut pas t'écouter. On ne peut pas t'aimer. On n'est pas aimable. Pourtant, j'ai longtemps cherché à me mettre en couple avec un juif. Le pardon comme socle de l'amour. Mais c'est comme si un bourreau rapportait sa tête à un guillotiné en lui disant « Je n'y étais pour rien, épouse-moi ». Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas recoller. Alors, j'ai choisi Olaf, un peu par défaut. Lui, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. On ne choisit pas sa naissance, malheureusement. Je ne pense pas qu'Olaf ait choisi son mariage. J'étais peut-être la seule option. On ne choisit pas sa mort non plus. Si c'était le cas, on se serait tous suicidés à la naissance. Mais à cet âge-là, on ne sait pas que ça existe. À cet âge-là, on ne sait rien. À 76 ans, je ne sais toujours rien. Ce journal pour savoir.
Voilà. C'est une recherche à laquelle nous sommes priés d'assister. Je ne vous dis pas la fin, parce qu'il faudra que vous lisiez le livre, parce que c'est vraiment la recherche qui est intéressante. Et pas seulement la fin. Et elle va se marier, elle va avoir des enfants, mais à la première réunion des parents d'élèves, un grand froid l'a saisi, ainsi que Olaf. Les enfants vont apprendre à lire et à écrire, et il faudra qu'ils apprennent avec leurs parents. Or, ils essayent d'apprendre, mais ils vont beaucoup moins vite que leurs enfants. Et c'est le moment de marquer ce moment dans sa vie et de faire une pause musicale.
Tell old Pharaoh to let my
après le souvenir de sa vie de femme, avec des enfants et un mari, eh bien, elle va maintenant s'expliquer sur le ton et la façon dont elle parle à son scribe. Et elle dit bien, en même temps, sur quoi elle se fonde, c'est-à-dire le totalitarisme.
Il ne s'agit pas d'une vengeance, il s'agit de réparer. De nombreux enfants Lebensborn exercent des professions où ils peuvent réparer ce que la vie a cassé. La vie m'a cassé. C'est plus juste que d'écrire « j'ai une vie cassée ». Notre fêlure est antérieure à notre naissance. Être né parfait nous a cassés. Ce livre aurait pu s'intituler « Le journal d'une surfemme ». Cette inhumanité m'a été fatale. Le problème, c'est que le totalitarisme crée un homme de masse. La masse des Allemands et la masse des autres. Je suis une femme de masse. D'essentiel à ma naissance, je suis devenue superflue moins de 2 ans plus tard. Mon scribe me dit que c'est ça la définition du totalitarisme, quand l'être humain devient superflu.
Après la réflexion sur l'être humain, vient une réflexion sur le nom et le changement de nom, car on la verra changer de nom. Et ce changement de nom, dit-elle, peut nous sauver la vie. C'est le cas quand on fait le faux papier. Hein. Et puis, simplement, quand on cherche à changer un petit peu son nom. On a déjà vu hier qu'on pouvait passer de Stein Mitchell à Stein, j'ai oublié la fin, qui fait plus français, ou bien de Cassin à Gatineau. Et là, les enfants sont des orphelins. Qu'est-ce que cela signifie à ce moment-là? Pour ceux qui viennent de cet hospice, on l'appelle la fille de Bosch, et elle en a beaucoup souffert. Elle évoque aussi la sélection qui se fait, notamment dans les pays de l'Est. Les enfants sont classés en 3 catégories. Les désirables, 1, les acceptables, 2, et les indésirables, 3. Et ceux-là, eh ben, ils sont envoyés à Auschwitz. Il lui faut découvrir ce que c'est que Anna, le racisme ordinaire. Après cette épouvantable sélection, eh bien, elle s'en va à Anna Arendt. Pourquoi ? Parce que le scribe lui a fait lire son livre, et notamment le procès. Le procès de l'ordre échappé.
Nuremberg ?
Quoi ?
Je sais pas, Nuremberg ?
Non, un personnage qu'elle dit un racisme ordinaire, le nom m'échappe.
Kafka ?
Quoi ?
Tu parles de Kafka ?
Non, un vrai personnage, un personnage historique que Anna Arendt était chargée par un journal new-yorkais de faire le compte-rendu du procès.
Eichmann !
Eichmann, ah, oui. Et alors, après avoir lu ce procès, elle découvre le racisme ordinaire. Mais alors, comme elle est imbriquée du principe de culpabilité, elle dit qu'elle se trouve ordinaire, elle retourne la situation, et à cause du personnage d'Eichmann, eh bien, elle se trouve ordinaire. On voit comment la culpabilité lui fait voir la réalité autrement.
J'en suis page 120.
Oui. Alors c'est un autre mode de sélection qui arrive. Elle dit qu'elle préférerait qu'on lui mente. Et comment il s'agit maintenant de savoir comment parler des camps.
J'aurais préféré qu'on me mente, qu'on me dise, comme on l'a dit à d'autres enfants Lebensborn, que mes parents étaient des partisans tués par les nazis. On m'a menti sur tout. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité. On m'a menti sur tout, sauf sur la seule chose à propos de laquelle j'aurais bien aimé que l'on me mente. Je sais, je ne suis pas la seule à devoir assumer le brassard noir à croix gammée de mon père. Je ne suis pas la seule à devoir me débrouiller avec ça. Mais je suis la seule, avec les autres enfants Lebensborn, à en être l'expression la plus criante. D'où mon cri, toujours inaudible. Mon cri de n'être réduite qu'à mon géniteur, dont j'ignore tout puisqu'il m'a abandonnée. Je me suis livrée à l'omni-absence de ce déserteur. Je suis non seulement fille de l'Allemagne, mais je suis fille de Berlin. Comme Berlin, je suis une ville débris, une ville dont on a bombardé la mémoire, une ville dont on a rasé l'histoire. Je suis née ruine, je respire la poussière. C'est difficile de se construire sur des gravats.
Alors, le scribe lui a fait voir en soirée le film Nuit et brouillard, et c'est ce film qu'il a fait de nouveau reparler des camps. Une partie du livre va être consacrée à des souvenirs et à des témoignages sur les camps. Le témoignage de Germaine Tillon, à qui on demande de quoi elle a le plus souffert à Ravensbrück, page 124.
Nous sommes arrivés dans un endroit qui puait la mort, l'odeur de la mort. Germaine Tillon parle de Ravensbrück. Dans un film, avant l'oubli, la résistante était NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Les déportés dont nul ne devait savoir ce qu'ils étaient devenus. Le secret de mort pour eux, le secret de vie pour nous. Ça pue. Une odeur, mais pas de mots pour sentir. Semprin parle de mémoire charnelle. Un jour prochain, pourtant, personne n'aura plus le souvenir réel de cette odeur. Ce ne sera plus qu'une phrase, une référence littéraire, une idée d'odeur. Inodore, donc. Il parle de l'odeur de Buchenwald. Lucéron en rajoute une couche. Je crois qu'il est plus honnête de vous prévenir. Je ne vais pas vous montrer Buchenwald, pas entièrement. Personne n'a jamais pu le faire. Nacht und Nebel, de l'allemand bei Nacht und Nebel, à la faveur de la nuit, ou du latin nomen nescio, je ne connais pas le nom. Encore et toujours Himmler. Notre Führer est d'avis d'une condamnation au pénitencier ou aux travaux forcés à vie, envoie un message de faiblesse. La seule force de dissuasion possible est soit la peine de mort, soit une mesure qui laissera la famille et le reste de la population dans l'incertitude quant au sort réservé aux criminels. Le maréchal Keitel signe le décret Nacht und Nebel le 7 décembre 1941. Les prisonniers disparaîtront sans laisser de traces. Il suffit de changer prisonnier par parent et ça s'applique à nous. Ça ne m'aide toujours pas à comprendre pourquoi le même brouillard et la même nuit devait entourer notre existence. De quoi avez-vous le plus souffert pendant cet enfermement à Ravensbrück? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour une intellectuelle comme vous? Germaine Tillon répond: pour moi, une seule chose est dure, c'est de perdre quelqu'un. Rappelez-vous ça. Tout le reste s'oublie. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime, ça, de toute sa vie, on ne l'oublie pas. Et ça s'est produit à Ravensbrück? Oui. Ma mère a été assassinée à Ravensbrück. Et ça, je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai jamais. Ma mère a dû m'allaiter. Me garder dans ses bras, m'aimer peut-être. Mais on l'a effacée. Des registres brûlés. De ma mémoire cramée. J'ai perdu ma mémoire charnelle. Arrachée dans un Lebensborn. Elle m'a été assassinée. Et ça, je ne l'oublierai jamais.
Voilà comment elle assimile la mort à l'oubli. Et elle dit qu'elle a été assassinée. A remarquer aussi, elle nomme son père. Et elle nomme également ses deux parents, son père et sa mère. Son père nazi, mais qu'elle voudrait quand même savoir qui c'est. Et sa mère, dont on l'a arrachée de ses bras. Elle va passer en revue encore d'autres personnages. Alors ceux-là, c'est des responsables des camps. Et par exemple, le professeur Karl Frank, qui fait des expériences médicales sur les enfants, pages 128 et 129.
Hitler emploie le mot « Gnadentod », traduction « mort miséricordieuse ». Ordre écrit du Führer le 1er septembre 1939 à Karl Brandt. Brandt. Son médecin personnel qui dirigeait le programme d'euthanasie Action T4. Les médecins inventaient une cause à inscrire sur les registres de la clinique pour expliquer notre décès. On nous disséquait avant, pour comprendre ce bug, pour pas que ça se reproduise, pour pas qu'on se reproduise. On nous éliminait des registres du Lebensborn. Pour que les statistiques soient bonnes, notre peu d'identité s'allie par un nouveau mensonge. Salir. C'était aussi l'idée des tatouages. Passer d'une identité propre à une identité sale. C'était sale pour les Juifs, ce tatouage, très sale. Parce qu'au chapitre 19 du livre du Lévitique, la Bible interdit le tatouage. La Torah proscrit toute modification irréversible du corps, toute altération de l'œuvre de Dieu. Les nazis se prenaient pour Dieu et nous étions leur création. Ce qui est sale aussi, c'est de perdre son nom. Cette présence éternelle sur le bras rappelle l'absence du nom. Primo Levi écrit : ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Et un peu plus loin, ils nous enlèveront jusqu'à notre nom. Et encore un peu plus loin, mon nom est 174517. Nous avons été baptisés. Ça me rappelle mon baptême avec les Juifs comme avec les enfants Lebensborn. Les SS s'arrogent le droit de renommer.
C'est ainsi qu'elle fait preuve aussi d'une ironie amère en faisant la remarque que les Tziganes sont, dit-on, le peuple de l'oral, mais c'est un peuple qui n'a pas de voix. Et elle a aussi un autre point commun avec les Tziganes, c'est ce qu'elle appelle la réparation.
Que faire avec ces Aryens juifs et tziganes ? On commençait par exterminer les hommes. Il arrivait qu'un soupçon d'humanité, mû par un zeste de désir sexuel, épargna la belle Aryenne juive ou tzigane. On la reconvertissait en esclave dans un Lebensborn ou dans une usine d'armement, généralement dans les deux. C'est ce qui est arrivé à Lucie Bozic, tzigane hongroise. Elle travaillait dans l'usine d'obus et de roquettes de Reutlingen, avec aller-retour au Lebensborn pour accoucher. Oh. D'où son tatouage croix gammée LB0096.
Lebensborn,
de la sous-race pour faire de la sur-race.
Oh.
Au fond, l'histoire de Lucie est assez logique. Puisqu'on nous arrachait notre mère, quelle importance qu'elle fût juive ou tzigane, dès lors qu'elle répondait aux critères de la sélection. Ça ne se verrait pas dans les statistiques, puisque de notre mère biologique, il ne restait aucune trace. Une femme de SS nous adopterait. Les femmes des plus hauts gradés avaient priorité. Une mère biologique de race inférieure était plus facile à évacuer. D'où les registres d'état civil ultra secrets de Stein-Öhring II. L'absence de sens commence à faire sens.
Voilà, encore une maison dont on entendra parler. Stein-Öhring, c'est la première des Lebensborn et c'est un lieu terrible. Elle va maintenant évoquer une réunion d'anciens races des orphelins qui va la décevoir. On voit que même mariée avec des enfants et avec une vie ordinaire, eh bien, elle n'oublie pas les autres races de la race des orphelins.
Alors il y a un passage sur les tziganes et, les réparations que je n'ai pas encore lu. Alors oui, les enfants, les Lebensborn, sont un peuple de l'oral, mais un peuple sans voix. Les tziganes n'en ont guère plus de voix. Comme nous, ils sont rejetés dans leur propre pays. Les nazis ont utilisé un mot commun, mariage biologique pour nos géniteurs et solution biologique finale de la question tzigane, décidée à l'automne 1942. Très peu de documentation, comme pour nous. Sur les 750 000 à 800 000 tziganes vivant en Europe, l'ampleur du génocide varie, selon les experts, de 195 800 à plus de 500 000 victimes au fur et à mesure des découvertes de nouvelles archives ou de nouvelles fosses. Les victimes n'ont pas été comptées et ne le seront peut-être jamais, Comme nous, les Tziganes vivent dans le flou de leur malheur, une tragédie approximative, suprême mépris. Un autre point commun, pas de réparation. C'est la police criminelle qui persécuta les Tziganes, pas la Gestapo. Or, c'est à la police criminelle que la Nouvelle République fédérale d'Allemagne demanda de vérifier le statut de victime du nazisme réclamé par les Tziganes. Le Brouaudière devint le juge d'alors. La police déclara que les Tziganes avaient été arrêtés par les nazis comme criminels et asociaux. Or, les personnes internées comme criminels ou asociaux ne peuvent bénéficier d'une réparation. Comme nous, cette accusation ô combien fallacieuse d'appartenir à une engeance criminelle leur interdit l'accès au statut de victime. Il fallut attendre 1979 pour que le Parlement allemand reconnaisse enfin le caractère raciste de la persécution tzigane et 1982 pour que le chancelier Helmut Kohl reconnaisse la réalité de leur génocide. Entre-temps, beaucoup étaient déjà décédés. C'est ce qui nous pend au nez, une reconnaissance post-mortem, quand on ne coûtera plus rien.
Voilà. Alors, on revient à sa réunion 156-157.
Allons, pas 156. C'est tiède d'être orpheline de parents vivants, disparus sans laisser d'adresse, pas vraiment morts, pas vraiment disparus, pas vraiment parents. Des enfants, les Buntsborn les retrouvent parfois. Une lettre de mère par-ci, une photo de père par-là, ou alors en personne, douche glacée. Ils nous demandent de la mettre en veilleuse. Notre naissance ne doit pas être, même pour ceux qui nous ont conçus. Ils expliquent qu'ils ont refait leur vie. Ils ont fait notre vie aussi, mais elle ne doit pas avoir été. La mère, cette clé du savoir, devient un verrou supplémentaire. Un de nos amis l'a retrouvée, après 20 ans de recherche. Ses premiers mots, surtout, tu m'appelles tante, comme si maman devait lui être à jamais imprononçable. Il est reparti plus orphelin, avec en lui le crime de sa naissance à ne pas révéler. Il y a eu crime. Il y a eu crime, au pluriel. Abandon, non-assistance à bébé en danger. Par dizaines de milliers, kidnapping, vol d'enfants. Par centaines de milliers. Et puis, crime pur et simple, si j'ose dire, pour les imparfaits. Assassinat d'enfants, mise à mort de nourrissons, pour cause de défaut. Il y a eu crime et il y a eu procès, un autre Nuremberg, celui où tous les responsables du Lebensborn programme sont ressortis libres. Après ça, pas facile de faire reconnaître que cela a été. Privés de peine, nous sommes encore moins. Oui, il y a bien eu procès.
Oui.
Procès des 4 plus hauts dignitaires du Lebensborn programme, mais pas de condamnation. Il y a même eu acquittement. Je vous assure que c'est vrai. Ma vie et cette erreur judiciaire, ma vie et ce cauchemar réveillé où les victimes sont présumées coupables et accusées comme telles dès leur plus tendre enfance et où les coupables, barbares infanticides, ne sont pas inquiétés. Tout ça est incompréhensible, comme ma vie n'a cessé de l'être. Ce journal pour comprendre ce qui ne se comprend pas. Dans un documentaire, on voit un enfant de 50 ans à la recherche de sa maman. Il est devant le Lebensborn belge, un château que les habitants de Véguimont appelaient le bordel biologique. On lui ressort toujours la même réponse. Vous connaissez l'administration allemande. Systématiquement, toutes les pièces administratives ont été rapatriées. On n'a trouvé qu'une chose, et c'est assez macabre. Ce sont des petits cercueils qui étaient tout prêts en cas de décès. Ils étaient dans le grenier. Ces petits cercueils oubliés confirment la sélection à la naissance. Les camps de la vie n'étaient pas que des camps de la vie.
162, il va citer le cas de Vermerz, Inge Vermerz, qui est une femme qui a été en 1950 reconnue désanifiée et qui en avait fait.
Inge Vermerz a été acquittée. J'ai un problème avec cette femme. La seule femme parmi les 14 prévenues qui comparaissent dans le cadre du deuxième procès de Nuremberg, elle y figure en tant qu'adjointe de Max Sollmann. Elle avait un autre rôle, représenter les physionomistes, Ces femmes, entraînées à reconnaître d'un coup d'œil si un enfant faisait partie de la race aryenne nordique ou pas. Comme d'habitude, faute de preuves, qui se trouvent toutes au ciel avec les cendres de nos dossiers, le sien est mince. On sait tout de même qu'elle s'est occupée du transfert de 300 enfants polonais. Elle est donc accusée d'enlèvement, mais elle plaide son rôle subalterne. Je vais finir par croire que les nazis étaient une armée de débiles qui obéissaient sans jamais penser par eux-mêmes. Et puis, elle affirme avoir agi par compassion. Les juges la croient. Elle est acquittée le 10 mars 1948.
Et là, c'est une des caractéristiques de ce roman. Vient le souvenir d'un procès célèbre. C'est celui de, c'est le procès, le livre, le titre du livre de Kafka, page 167.
Kafka. Peut-être que mon enfance a été trop courte. Moi, je n'ai pas eu d'enfance. À peine à aiguiller le train de mes souvenirs vers le luxe des bonheurs insignifiants. Je n'ai pas connu la sécurité d'un foyer familial qui permet à l'imaginaire de se déployer sans limite. J'ai vécu l'inverse. Mon foyer imaginaire est un foyer qu'on m'a imaginé, sorte de tombe de parents inconnus. Il n'a eu de cesse de cultiver en moi un sentiment d'insécurité tel que mon imaginaire est une succession de limites. Ces limites, aussi réelles que l'irréalité de mes parents, m'ont volé mon enfance. Je ne suis pas pour autant adulte, Kafka à propos de son père. L'amour a souvent le visage de la violence. Je suis immature, puérile, incomplète, terrassée par l'image du père qu'on m'a attribuée.
Voilà donc une association d'idées propre à ce livre. Mais le procès de Kafka paraît bien léger par rapport à ce qu'elle est en train de nous dire.
Une lecture oppressante et drôle que le procès de Kafka. Oppressante comme ce pouvoir invisible qui nous laisse en liberté, mais refuse de statuer sur notre cas. Drôle comme le miroir qu'il nous tend, mais surtout prophétique en tant que roman, non pas de l'injustice, mais de la non-justice. Les pérégrinations de Joseph K. ressemblent aux miennes. Partout où il va, on le reçoit, mais quand il demande qu'on l'éclaire, on l'obscurcit. Le seul point commun de ses interlocuteurs, une manière de mesquinerie à laquelle il ne peut se résoudre. C'est trop grave pour lui. Eux ont déjà renoncé. Ils ont pris le parti de la vie médiocre, comme si leur vie n'était pas en jeu. Alors que son arrestation est devenue tout l'enjeu de K., raison pour laquelle il rend visite à Tito Relli, ce peintre qui fait le portrait des juges. Ce que lui dit K est l'impasse de ma vie. Mon innocence ne simplifie pas mon affaire.
Voilà. Il lui a dit « Votre innocence ne simplifie pas votre affaire. »
« Bon, dit le juge d'instruction en feuilletant son calepin. » Et se tournant vers K, il ajouta sur le ton de la constatation « Vous êtes donc artisan peintre ?»« Non, dit K. Je suis premier fondé de pouvoir dans une grande banque. » Cette réponse fut accueillie à droite par un rire si communicatif que même K se mit à rire. Les gens s'appuyaient des deux mains sur leurs genoux et se tordaient, comme en proie à une forte quinte de toux. On entendait même rire quelques spectateurs de la galerie. Autre point commun avec K, mes juges partent de la constatation que je suis nazi. Et quand je réponds que je ne le suis pas, ne l'ai jamais été, et qu'on ne décide pas d'être nazi à 18 mois, les gens autour de moi se mettent à rire, comme dans l'étrange tribunal de K. Pas si étrange que ça au fond, car le tribunal ce sont les autres, rarement les juges. Si seulement j'avais des juges, j'aurais accès à mon dossier, à la procédure m'instruirait. Mais je ne suis pas instruite, on me l'a assez dit. Je me rappelle juste, quand je demande des explications, que j'ai été condamnée à être coupable, une condamnation à vie, sans procès.
La seule preuve, s'il y a des preuves, c'est qu'elle a eu, figurez-vous, un baptême avec d'autres enfants des Levensborn, et c'est une cérémonie bizarre, elle est entourée, on la voit entourée de... Alors on voit une enfant de 2 ans entourée d'uniformes noirs avec une épée nazie au-dessus de la tête et qui donc reçoit les insignes comme quoi elle est nazie. Avec ce tableau qui est fait pour nous faire peur, un baptême de l'horreur, en quelque sorte, eh bien, elle va évoquer d'autres témoins. Ce sont des témoins qui ont vu le couvent où elle a été élevée, mais elle était la seule à parler norvégien et elle ne pouvait pas se faire entendre. Et c'est page 194, la supérieure d'un couvent.
Enfin un témoin, la mère supérieure d'un couvent voisin. Les Djiai lui ont demandé, avec ses religieuses de l'ordre des Salésiennes, de nous prendre en charge. Aux enfants, il manquait un sentiment très naturel, la tendresse. Habitués à vivre dans leur lit, en groupe, le moindre geste humain les effrayait. Les plus âgés, qui avaient entre 3 et 4 ans, ne savaient pas encore parler. Ils s'exprimaient par onomatopée, comme des petits animaux. Typiquement, des enfants élevés dans un foyer, mentalement, la plupart étaient très en retard sur le développement mental correspondant à leur âge. Ces enfants faisaient pitié. La mère supérieure a raison, la tendresse connaît pas. Analphabète en tout, ni lire, ni écrire, ni aimer, ni toucher, ni enlacer, même notre amour à nonne. Un autre témoin, le baron Otto Cajetan Freiherr von Fleury, aristocrate. Il habite à 1,5 km de la maternité. Il a 39 ans quand les Alliés arrivent à Steinöring. Début mai 45, les Américains sont arrivés. Une femme est sortie avec un drapeau blanc. Finalement, on a découvert qu'aucun SS, qu'aucun homme ne se trouvait plus dans le foyer. Tous les SS avaient fui en emmenant tous les stocks alimentaires et tout ce qu'ils ont pu prendre.
Alors, après ces visions horribles qui nous rappellent le livre Le Liseur où on voit la personne qui est accusée. Mais alors là, elle paraît au rang parmi d'autres accusés des camps et elle raconte qu'au moment de 1945, ils ont fui et qu'elle, eh bien, elle a fait fuir, ils devaient fuir avec leurs détenus. Et ils ont fui dans des conditions effroyables. Les prisonniers n'avaient pas de chaussures, il faisait froid, il neigeait. Et ils étaient très affaiblis, beaucoup, beaucoup sont morts, et c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort. Elle revient, après ces horreurs, elle revient à son scribe, et elle fait remarquer qu'il ne dort pas. Page 205.
Mon scribe ne part pas en vacances, il partira après, quand je me serai vidée. Quand il aura rempli mon vide de ses lettres bien vivantes. Mon scribe fait désormais partie des meubles. Le problème, c'est qu'il ne dort plus. Quand je vais me coucher, il est toujours dans le salon en train d'écrire. Je crois qu'il écrit mieux quand je ne suis pas là. Quand je redescends à l'aube, il est encore là, dans le salon, en train d'écrire. Il ne boit pas de café, c'est une espèce de moine de la plume. Ça tombe bien, il est temps de vous emmener au couvent. Il est temps que je vous parle d'Indersdorf, entre Tour de Babel et Arche de Noé. Ce couvent concentre toute l'enfance de l'humanité.
Ils vont aller ensemble. À remarquer, elle a de nouveau 76 ans. Et les moments du livre concernent ces moments d'enfance. Mais elle ne parle ni de sa vie de quand elle avait des enfants, ni évidemment de sa petite enfance. Elle est à sa recherche, mais pour le moment, on tourne en rond. On tourne en rond. Et sa première certitude, c'est celle que, de son arrivée, elle dit dans ce couvent.
Indersdorf.
Voilà, d'Indersdorf.
Ce lieu où tous ces bourgeons éclosent sans racines. Certains sont calcinés, mais ils éclosent quand même. Mille fois assassinés, ils renaissent des cendres de leurs parents, de leurs grands-parents, oncles, tantes, cousins, frères et sœurs. Ils sont tous ceux qui restent de leur arbre généalogique. Ils sont la brindille, la sève, la feuille, le morceau d'écorce qui n'a pas brûlé. À Indersdorf, en 1945, nous partageons avec les enfants de la Shoah l'expérience de la vulnérabilité absolue. Comme eux, je n'ai ni parents ni maison. À la différence d'eux, je n'en ai jamais eu. Qu'est-ce qui est au plus douloureux ? Ne plus avoir ou n'avoir jamais eu ? On me répond, ne plus avoir. Qu'est-ce qu'on en sait ? Je suis fatiguée qu'on réponde à ma place.
On revient à la comparaison avec les Juifs, et il faut dire, et c'est ce qu'elle indique d'ailleurs dans son livre, que son scribe lui a fait lire un livre d'une femme qui s'appelle Anne Delauer, et qui parle des 300 enfants de Stan Oring. C'est cette fameuse maison où on enfermait les enfants. Et page 214.
Indersdorf, on l'a lu. À Indersdorf, page 220, il n'y a pas que notre nom et notre date de naissance qui furent réinventées. Il fallut aussi nous retrouver une nationalité. Dans ce nouveau monde puzzle, redécoupé par les vainqueurs, des officiers de tout pays viennent réclamer leurs supposés nationaux. Mais les enfants n'ont plus confiance. Au couvent, ils sont nourris, vêtus, écoutés. Les enfants de la Shoah refusent de suivre des hommes en uniforme. Les enfants volés, germanisés, bredouillent leur langue maternelle et craignent qu'en revenant au pays, on leur reproche de mieux parler l'allemand. Quant à nous, les enfants qui portent un nom de famille allemand, on fait partie des vaincus, on n'intéresse personne.
Et l'affaire a fait un bruit international et on voit arriver des gens pour essayer de retrouver leurs enfants. Page 233. Non, 221, pardon.
Le nom officiel du couvent est l'International Displaced Person Children's Center. On est des enfants déplacés. Mais la Team 182, l'équipe numéro 182 de l'UNRRA, en charge du couvent.
Des écriteaux UNRRA.
Non, là, c'est pas la même chose, c'est UNRRA. En charge du couvent, il y a un W en Palestine. N'essaye même pas de nous placer. Ils savent qu'on est déplacés, mais implaçables. Un mot qui, comme nous, n'existe pas. Ils savent que personne ne viendra nous réclamer. Alors ils ne font pas notre réclame. Nous sommes issus d'un magasin qui n'existe plus, mais que tout le monde continue à considérer comme infréquentable. Nous sommes des produits de luxe qui n'avons pas trouvé d'acheteurs. Nous sommes la vitrine d'une boutique qui représente le mal absolu. Nous sommes des mannequins qu'on voit en uniforme nazi, même quand nous sommes nus. Un logo qui ne fait plus vendre. Un slogan inaudible. La liquidation a eu lieu, mais on n'a pas pu nous déstocker. Nous sommes l'échantillon toujours en vie de la faillite de l'Allemagne nazie. Nous sommes le futur de l'inhumanité.
On voit la mise en parallèle de notions très ordinaires, les grands magasins, et tout d'un coup une formule époustouflante, nous sommes l'avenir de l'inhumanité. Et elle va maintenant évoquer une autre figure qui est une figure beaucoup plus humaine et intéressante, c'est celle de Greta Fischer, qui fait partie de ce couvent d'Indersdorf.
Greta Fischer nous nomme les enfants perdus de l'Europe libérée. L'ombre d'Himmler ne flotte jamais loin de l'endroit où je me trouve. C'est lui qui donna l'ordre d'installer les nourrissons des travailleuses forcées dans les murs de ce monastère augustinien datant de 1120. La Babel qu'il est devenu à la sortie de la guerre ne concerne d'ailleurs pas que les enfants. Les membres de la Team 182 proviennent de toutes les parties du monde, Australie, Tchécoslovaquie, États-Unis, Hollande, Luxembourg, auxquels s'ajoutent la mère supérieure, Dolorosa Mayer, et toutes les sœurs de la miséricorde de Saint-Vincent de Paul. Comme certaines photos l'attestent, ces religieuses aimaient prendre soin des bébés. Finalement, avoir une mère vierge est peut-être ce qui ferait le plus sens dans ma vie.
Là, on reconnaît l'ironie qui ressort souvent.
Greta Fischer explique à sa team 182 les priorités. donner de la nourriture, beaucoup de nourriture, donner des vêtements, écouter les histoires. Nous étions trop jeunes pour raconter quoi que ce soit. Et puis, il n'est pas certain qu'ils se soient intéressés au projet de race supérieure dont nous étions les miettes vivantes. Non. Les moins de 3 ans posent d'autres problèmes à la Team 182. Nous crions dans notre sommeil, nous gênions quand nous sommes éveillés et nous ne sommes toujours pas propres. Greta Fischer note dans son journal « Les tout-petits manifestent peu d'intérêt pour l'environnement qui les entoure. Ils ne semblent pas avoir suffisamment d'énergie pour pleurer, ils ne sourient pas. Exactement ce qu'on m'a reproché toute ma vie. Je ne savais pas que ça remontait aussi loin. »
Voilà. C'est l'heure. Alors on va s'arrêter là et on vous dit pas comment elle a pu trouver quelque chose qui en fait ne sera rien parce que le papier vient de l'endroit où elle est née et tout a été brûlé. On vous dit au revoir.
À la semaine prochaine.
A song that comes from Tanzania. Malaika.